Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Dans cette émission de Regarde ailleurs, donnons la parole à Jean-Pierre Méran. C'est sur le festival Rencontres chamaniques que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Eh bien, nous sommes donc en Charente, dans un très bel endroit, et c'est le 10e festival chamanique. Autrement dit, cette année, ils ont vu un petit peu plus grand que d'habitude, ce qui fait qu'il y a, à peu près 120-130 chamans, hommes médecine, guérisseurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui viennent cette année des 6 continents.
Et quand on arrive sur le site, qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que le site est organisé? Celui qui va venir ici en tant que festivalier, qu'est-ce qui se passe pour lui?
L'espace cette année est très très grand, ce qui fait que ça donne une impression de choses un petit peu éparpillées, ce qui est bien. Et il y a plusieurs tipis, il y a des yourtes, il y a des huttes à sudation, qu'on appelle aussi temascal ou inipi selon les traditions, des tentes, des lieux où ont lieu des soins, des cérémonies, des rituels, des conférences. Il y a aussi un festival du film chamanique, avec une salle dédiée, ce qui fait que c'est une rencontre dédiée à la fois aux chamans du monde entier qui viennent. Cette année, on a les deux Amériques, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, avec particulièrement les aborigènes australiens qui cette année viennent pour la première fois. Et c'est pas rien de les faire venir du bout de l'Australie. La Nouvelle-Zélande aussi est là. Et donc des soins, des conférences, des ateliers, avec des invités assez précieux cette année.
Et tout ça ici, à Genac. Mais pourquoi? Quelle est l'idée du festival? Pourquoi réunir tous ces gens de différentes traditions ici?
Ça, c'est le créateur de ce festival, qui est Patrick Daquet, qui assistait, il y a déjà quelques années, à un rassemblement similaire au Canada, au Québec, à Maniwaki. Et c'est là qu'il a eu l'idée, le rêve, lui il appelle ça le rêve, de refaire la même chose en Europe. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, c'est que le monde dans lequel on vit, ce n'est pas très original que de dire que nous manquons de repères, nous manquons de liens avec la nature, nous manquons de liens avec le vivant. Nous sommes tellement dans une société dite de consommation, de course en avant, de compétitivité, les marchés boursiers, tout ce qu'on veut, qui fait qu'à un moment donné, beaucoup de personnes saturent complètement du système dans lequel on est.
Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de gens effectivement qui sont dans une quête de sens. Alors, quel est ce sens qui manque à la vie selon toi? Qu'est-ce qui nous manque finalement pour trouver cet équilibre intérieur?
Notre société fait que nous nous sentons seuls. Beaucoup de personnes sont en fait seules parce que le lien n'est pas fait. Le lien n'est pas fait avec elles-mêmes puisque tout est recherché sur l'extérieur. Et que cette chose étonnante et complètement hérétique qu'on appelle le chemin intérieur, il n'est pas du tout reconnu, nommé, valorisé dans les médias, dans notre culture, dans notre société. Ah, vous êtes mystique, oh mon Dieu, oh c'est une secte, enfin tout ça. Dès qu'on est sur un chemin intérieur, ça passe pas bien, parce que tout ce qui est véhiculé, reconnu et autorisé, c'est sur l'extériorité.
Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est un lien avec le système éducatif peut-être, où on apprend vite à l'école à être dans la compétitivité, pas dans la complémentarité? Ou pourquoi est-ce qu'on a cette solitude intérieure? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça?
Notre société n'a fait que l'augmenter. En fait, ça a toujours plus ou moins existé. Il faut remonter dans des sociétés dites primitives, premières, autochtones, pour avoir le sens de la communauté. Il y a déjà la communauté humaine. Il y a le sentiment d'appartenir au vivant. C'est-à-dire, je suis avec la terre, je suis avec les éléments. Et nous, occidentaux, nous avons tendance après, avec tout ça, à en faire des concepts, des idées. Oui, je suis relié avec la terre-mère, tout ça. Mais nous ne le ressentons pas. Quel est le chemin qui va me permettre de me reconnecter? Il y a les plantes, les animaux, le minéral, les mondes invisibles. Alors là, dès qu'on parle de mondes invisibles, aïe, ça y est, il a fumé je ne sais quoi. Et ce n'est pas ça, parce que c'est là, ça existe. Mais du moment que ça ne se voit pas, ça ne se mesure pas avec un petit appareil, avec l'aiguille, pour la société standard, on va dire, ça n'existe pas. Et c'est très dommage.
Quand on arrive ici, pour redonner toujours cette dimension visuelle à ceux qui nous écoutent, c'est très beau. Il y a des tipis, il y a des yourtes, il y a des gens qui sont habillés tout en blanc, des colliers, des clochettes, c'est visuel. Mais quand je te regarde, je m'inquiète un peu, parce que t'as pas de plume, t'as un pull, t'as des chaussures, et en plus de ça t'as une montre. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dénotes pas.
Là tout de suite, je ne suis pas en cérémonie, et même, pour moi, le costume n'est pas le plus important. Et c'est un des dangers. Pour moi, c'est un des dangers d'un endroit comme ici, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas familiarisés avec ça ne vont voir que l'aspect folklore. Mais si vous regardez les aborigènes australiens, ceux qui sont là, ils ne sont pas en pagne avec trois feuilles de... Ils sont en t-shirt, joli t-shirt d'ailleurs, mais ils sont en t-shirt en jean aussi. Donc pour moi, le costume n'est pas la chose la plus importante. Et comme je disais tout à l'heure, comme je me méfie un peu de l'aspect folklorique, je ne souhaite pas rentrer dans l'aspect folklorique de la chose, puisque ce n'est pas ça l'important.
Et ça rejoint ce que tu disais avant, entre cette notion d'intérieur et d'extérieur, où aujourd'hui on est vide intérieurement, on se sent seul intérieurement et on est trop tourné vers l'extérieur.
Et les chamans, en fait, ils sont là pour témoigner en même temps d'une posture intérieure. Quand on entend les Wiraricas mexicains ou les Kogi colombiens que je renomme ici, ou même les pygmées, ce que nous disons, c'est tout la même chose, avec des vocabulaires différents. La terre est une, nous sommes enfants de la terre. Ils disent tous la même chose, que le monde moderne, à force d'être séparé de l'essence vivante des choses, nous agissons sur la terre comme des prédateurs. Et c'est valorisé. La bourse, les marchés, les compagnies minières, il faut faire du business, enfin tout, je ne ferai pas un dessin. Et ils disent tous la même chose, mais ce n'est pas un business. Il ne s'agit pas d'un business. Cette terre est sacrée, et dès qu'on dit le mot sacré, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des enfants de la terre. Et si nous massacrons cette terre, nous massacrons ce qui nous donne la vie.
Mais le problème, c'est que cette vision-là, qui paraît pleine de bon sens, n'est pas compatible avec le modèle économique qui est imposé à l'ensemble de la planète.
C'est bien ce que je suis en train de dire. Le modèle économique est bâti sur la séparation des choses, sur cette vieille croyance que l'homme est maître, le roi de l'univers. L'homme, c'est le roi, donc il a le droit de tout faire. Et donc cela va chercher dans les instincts les plus basiques. Et nous sommes à un niveau où, je ne sais plus, les derniers chiffres, ça change tout le temps, 1% de la population à 50% de la richesse, enfin, c'est des choses comme ça. C'est plus possible. Et cette vision des peuples premiers vient essayer de nous rappeler, mais arrêtez, redevenons simples. Et redevenir simple, nous allons l'entendre, redevenir bête. Non, redevenir simple, c'est je suis là, vivant. Et la terre, la société, même mon travail me donne ce dont j'ai besoin. Mais dès que nous rentrons dans les sphères de pouvoir, il y a cette avidité d'en avoir toujours plus. Parce que les peuples premiers se trouvent confrontés à cette avidité de toutes les multinationales. Les Équatoriens, les Chouars, dont un représentant est ici, un des chefs représentants, et ici, ils se bagarrent contre les compagnies pétrolières qui sont en train de saccager l'Amazonie péruvienne.
Et les compagnies minières qui continuent de saccager le territoire aborigène, et les compagnies pétrolières qui continuent de saccager les océans. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que le message des peuples premiers, qui est tellement plein de bon sens, va être écouté, entendu? Ou est-ce qu'il va falloir vraiment qu'on vive une transformation profonde de nos sociétés pour pouvoir peut-être se relever de nos cendres ou pas? Quand est-ce que ça va s'arrêter?
Oula, je ne suis pas prophète. Je peux avoir une petite vision à droite et à gauche, mais je ne suis pas prophète. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'en sais rien. Mais il s'agit de faire tout notre possible pour que ce message soit sinon entendu, au moins dit. C'est déjà pas mal. Que nous ayons la place de le dire. Que les peuples premiers trouvent un lieu en Occident pour l'exprimer, pour le nommer. Après, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors nous pourrions le brailler dans les oreilles de tous les représentants des multinationales. S'ils ne veulent pas entendre, ils n'entendront pas. Eh bien, ils nous mènent droit dans le mur, allons droit dans le mur. Plusieurs chamans le disent. L'humanité, finalement, elle n'est pas indispensable à la Terre. C'est la Terre qui est indispensable à l'humanité. Mais ça ne rentre pas. Alors si l'humanité disparaît, bon, c'est très dommage.
En même temps, ce serait un soulagement pour les autres espèces animales et végétales.
Je crois, oui.
Et la Terre continuerait d'exister. C'est vrai que l'homme n'est absolument pas indispensable. Et si l'espèce humaine disparaît, bah ça fait juste une espèce de plus qui disparaît sur Terre.
Pas des moindres. Mais comme vous dites, ça ferait un soulagement pour beaucoup d'espèces animales qui diraient « Enfin, ils sont partis !» Mais en même temps, dans les visions de nombreuses traditions, ils vont le dire différemment. Nous avons perdu le contact avec ce que j'appellerais la noblesse de l'être humain. L'être humain a cette capacité d'une noirceur absolue, d'une avidité totale, d'une prédation, d'une méchanceté les uns vis-à-vis des autres. Bref, nous pouvons être des vrais démons. L'histoire le prouve assez récente, même encore actuellement. Pas besoin de donner des exemples. Mais en même temps, il y a l'autre partie. Et c'est cette autre partie de l'infinie noblesse, de l'infinie richesse, de l'infinie beauté de l'être humain. Et c'est celle-là que nous cherchons à recontacter, à nous faire nous ressouvenir que nous sommes aussi cela. L'inconvénient, quand on se ressouvient de cette noblesse et de cette beauté de l'être humain et de cette reliance, c'est qu'il se passe quelque chose d'absolument épouvantable. Pour les sociétés ambiantes, c'est qu'intérieurement, à partir du moment où je me connecte à l'intérieur, je prends le risque incroyable de devenir libre. Et aucune société, surtout actuellement, ne supporte les personnes qui intérieurement sont libres. Ne pas oublier que nous sommes des soleils. Ne pas oublier que nous sommes des merveilles. Ne pas oublier que nous sommes ici pour vivre vraiment, d'en haut jusqu'en bas, d'en bas jusqu'en haut, parce que vivre c'est beau. Ne pas oublier que nous sommes des soleils. Ne pas oublier que nous sommes des merveilles, sans se prendre la tête avec de belles racines, parce que la vie est une fête du sommet. Jusqu'aux racines, ne les oublions pas. Il y a des racines de terre, il y a des racines de ciel, il y a des racines de cœur, il y a des racines de fleurs. Et quand les racines sont bien enracinées, alors les fleurs peuvent se déployer. Et quand les fleurs se seront déployées, alors les fruits pourront arriver. Ne pas oublier que nous sommes des soleils, nous sommes des fleurs, nous sommes faits pour porter fruits. Les fruits que nous portons dans ce monde difficile sont plutôt malades, sont pleins de vermisseaux. Alors portez des fleurs, ma foi, plus belles. Alors portez des fruits, ma foi, plus beaux.
Jean-Pierre, on est donc aux rencontres chamaniques à Genac, donc ce sont les dixièmes, comme tu disais, plusieurs chamans du monde entier. Donc le chaman, on l'a utilisé ce mot. J'aimerais que tu me le définisses. Qu'est-ce que c'est qu'un chaman ?
Le mot chaman est un mot d'origine tungouse. Chaman, ça veut dire celui qui s'agite, celui qui danse, sous-entendu avec les esprits. Autrement dit, qui est possédé, alors le mot possession, beaucoup de guillemets, un esprit rentre en lui et ça le fait bouger, ça le fait danser, ça le fait dire, ça le fait chanter. Et c'est le mot occidental, le monde occidental, qui a développé cette notion de chamanisme universel. Les Amérindiens du Nord ne disent pas qu'ils sont chamans. Je suis medicine man, à la rigueur, pour parler anglais. Les Amazoniens ont reçu aussi ce mot-là. Bueno, yo soy chaman. Oui, mais au départ, ce sont des curanderos, des guérisseurs, des vegetalistas, des gens qui travaillent avec les plantes. Mais le mot chaman, maintenant, a une telle diffusion que même des peuples qui ne l'utilisaient pas l'utilisent maintenant. Alors après, dans des définitions plus essentielles, j'avais trouvé une très belle définition une fois, qui me parle bien, qui est « le chaman est celui qui a traversé sa blessure ».
Mais si je devais aussi reprendre ce que tu dis et le comprendre, donc le chaman est aussi celui qui a la possibilité de rentrer en connexion avec des esprits.
De fait, d'une façon, on va dire, plus mécanique ou plus technique, le chaman est un ambassadeur, une interface, un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et dans le monde invisible, c'est là où ça commence à se compliquer, parce qu'il y a du monde. C'est très très peuplé. Et c'est là où aucun chaman sur Terre n'a développé la capacité à parler à tous les mondes invisibles. Les Amazoniens, que je connais un peu mieux, ont développé plus l'aspect végétal. Ils vont rencontrer le monde végétal. Et à partir de là, ça leur donne accès à d'autres choses. Mais la porte d'accès est très souvent végétale. Pour le monde sibérien, le monde de la Mongolie, les Bouriates, les Touvas, toute cette sphère-là, le chaman, lui, il est habité par un ancêtre qui vient. C'est un grand-père ou un arrière-grand-père, ça peut sauter pas mal de générations, qui vient dans cette transe. Donc ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal, c'est un ancêtre qui était déjà dans ce lien, qui vient et qui a accès aux informations, aux mémoires, qui peut donner les diagnostics et les soins. Donc ce sont des choses très 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 différentes. Mais quelqu'un de défunt fait aussi partie du monde invisible. Donc dans le monde invisible, il y a une quantité de choses extraordinaires. Mais le chaman, quelle que soit la tradition, et dans tous les continents, c'est celui qui est juste à la croisée entre le visible et l'invisible. Notre monde a plutôt l'habitude de ne valoriser que le monde visible. Et le monde chamanique dit non, l'essentiel de ce que nous vivons fait partie des choses invisibles. Et ça, nous le savons, mais nous ne voulons pas le savoir parce que ça nous énerve. Parce que l'invisible, nous ne le contrôlons pas.
Et nous effraie aussi peut-être.
Ça nous effraie et ça nous fascine. La quantité de films qu'il y a sur des poltergeists et autres zombies et autres machins et autres trucs. Mais même, une notion aussi simple que l'amour. Comment ça se mesure, l'amour ? C'est invisible. Oui, mais ça se sent. Ah, prouvez-le-moi. Et nous voilà bien.
Bah, on va continuer sur des exemples. Cet invisible-là, comment je fais pour le voir ?
Bah, l'invisible, par définition, ça ne se voit pas. Ou alors, le chaman a développé, comment dire, des antennes. C'est comme un muscle qui, à un moment donné, n'a jamais été utilisé et qui, chez ces personnes-là, soudain se développe. Ressentir une ambiance, ressentir si quelqu'un est pris par des choses difficiles, ressentir comment ça se passe, si un lieu est chargé, ressentir si une situation est... Des choses très très fines, très très impalpables. Mais il n'y a pas de compteur Geiger, il n'y a pas de voltmètre pour ça. Il n'y a pas de petite chose avec une aiguille. Ça n'existe pas encore et ce sera bien que ça n'existe pas, parce que sinon...
Quand on arrive sur le festival, il y a un programme, il y a ton nom dedans, Jean-Pierre Méran, et il y a quelques lignes sous le programme, et je ne l'ai pas là sous les yeux. Donc fais-moi ta présentation. Qui est Jean-Pierre Méran ?
Alors, le chamanisme est venu à moi. Je ne l'ai jamais voulu. Ce qui fait que j'ai eu simplement la témérité ou l'audace d'écouter l'appel. Et dans beaucoup de traditions, il y a cette chose-là. Il y a quelque chose où les esprits, je ne peux pas mieux dire, disent « voilà, ce sera toi ». C'est arrivé un peu comme ça. J'ai été comédien, j'ai été chanteur, j'étais beaucoup dans le spectacle. Et puis, c'est venu tout à fait par des hasards. Un jour, un ami m'appelle en me disant « Oui, toi qui as une relation forte avec le Mexique, parce que je suis né au Mexique, il y a des chamans mexicains qui viennent pas très loin de chez toi. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Pourquoi pas ? Soyons fous !» Et j'y suis allé en parfait touriste. Et là, c'était direct. Les énergies qu'il y avait là m'ont dit, ben voilà, cherche plus, c'est là. Et quelque chose en moi a dit, tu dis oui, qu'est-ce que tu as à perdre ? Et j'ai dit oui. Donc c'est venu me chercher. Et l'année d'après, je suis retourné au Mexique dans cette tradition-là.
Et à partir de ce moment-là, que s'est-il passé ?
Puisque je ne l'ai pas cherché, je m'en suis remis. En quelque sorte, à ces traditions. La tradition péruvienne est venue après, dans le même genre de hasard, je me suis laissé faire. Alors il s'est passé que petit à petit, c'est devenu un peu quelque chose de central dans ce que j'ai à donner, à transmettre.
Et donc ton nouveau métier, c'est quoi finalement, être chaman ? En quoi ça consiste ?
Je m'appuie sur les traditions qui du coup m'ont nourri, m'ont formé, pour faire du bien aux gens, pour aider à ma petite mesure, dans mes petites capacités. Je ne sais pas si ça va durer jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas le maître. Je me laisse guider. Si à un moment donné, les énergies ou les esprits ou le bon Dieu, bref, me disent « Bon, maintenant, ça va, tu peux tourner la page. Et maintenant, tu cultives des roses et tu les vends sur les marchés. » Bon, eh bien, soit.
On parlait de concret, de réalité. Aujourd'hui, on a besoin d'être terre à terre pour comprendre. Et j'aime bien parce que ton discours est très ancré. Et ça, c'est chouette. Même toi, quand je te vois là en face de moi avec un pull et des chaussures, ça me plaît. T'es ancré. Mais j'aimerais un peu mieux pouvoir comprendre et visualiser. Donc concrètement, si quelqu'un vient te voir pour être aidé, pour avoir un soin, quelle va être la demande de la personne et comment est-ce que tu vas pouvoir l'aider ?
En fait, il y a plusieurs sortes de soins. Beaucoup de guillemets encore avec le mot « soin ». Chamanique, parce que je ne m'occuperai jamais de choses physiques. J'attire beaucoup de personnes qui ont été comme je l'ai été pendant de nombreuses années, c'est-à-dire dans le flou, mais pas artistique. Je suis un croisement de ma vie. Donc j'attire en fait beaucoup de personnes qui sont en recherche de qui elles sont. Et qui sont dans des demandes, mais où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Donc des demandes de sens, en quelque sorte. Et les traditions et les choses que je peux accomplir et ce que nous faisons, finalement, finissent souvent par inverser la question. C'est-à-dire, ah, tu veux aller là? Si la personne dit, je veux aller là, bon, on n'a plus qu'à organiser la chose, ce serait facile. Beaucoup de personnes, c'est, je ne sais pas où je dois. Et c'est le mot « devoir ». Où est-ce que je dois aller? Non, tu ne dois rien. Mais pour aller quelque part, il faut déjà savoir où on est.
Mais ce travail-là peut se faire avec un psychologue, par exemple. Réussir à identifier ses besoins, son identité, ses émotions.
Ça va arriver à un certain étage. Les techniques occidentales abondent. Et elles font des choses merveilleuses. Alors, vous allez me demander, mais qu'amène en plus le chamanisme par rapport à ça? C'est qu'à un moment donné, nous allons aller dans la profondeur de l'être. Et non pas dans les mécanismes mentaux, dans les mécanismes émotionnels. Il est extrêmement utile et précieux de rencontrer les mécanismes mentaux, émotionnels, les croyances, tout ce que fait la PNL, tout ce que fait ce système de gestion des émotions. C'est précieux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a au centre de la personne? Qui elle est? Alors qui je suis Jean-Pierre. Après, nous pouvons mettre 10 000 choses. Hein. Je suis un homme, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Mais cette notion d'identité... Les peuples premiers n'avaient pas trop ce problème parce que l'identité était déjà beaucoup collective, justement. Puisque je suis un être vivant sur Terre. Je suis quelqu'un en lien avec la nature, avec les arbres, la forêt, les animaux, tout ça. Je suis dans ma communauté. Et nous vivons beaucoup en Occident dans cette notion d'individualité seule. Et notre éducation, notre culture, tout le cinéma, ce sont des exaltations d'individualité. Le héros. Et il est important d'avoir la fonction du héros. Toutes ces notions de légende personnelle qu'on trouve par ailleurs. Oui, c'est juste, mais il faut que ce soit remis à sa place. Je suis le héros de mon histoire, mais je ne suis pas le sauveur de l'humanité. On se calme. Et c'est là où il y a des déséquilibres.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Venir ici au festival, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu y fais? Je crois que tu es dans la hutte de sudation, c'est ça?
Alors ce soir, je donne une hutte de sudation. J'en ai donné une hier soir. La hutte de sudation, Temazcal, Inipi, c'est un rituel extrêmement ancien qui se pratique essentiellement dans la sphère d'Amérique du Nord, du Canada au Guatemala. Plus au sud, il y en a déjà nettement moins. C'est comme un, entre guillemets, sauna, pierre chaude, qu'on rentre à l'intérieur de la petite structure. De l'eau sur des pierres chaudes, ça fait de la vapeur. Jusque-là, tout va bien. Quelle est la différence avec un sauna?
Je ne sais pas le demander.
Bien, parce qu'un sauna, on y va juste pour du mieux-être. Le Temazcal ou la sudation, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une symbolique beaucoup plus forte, où nous rentrons dans le ventre de la terre. Le feu va représenter le soleil, la hutte à sudation représente la terre. Le feu du soleil à travers les pierres qu'il chauffe rentre à l'intérieur du Temazcal. Donc c'est le feu du soleil qui rentre dans la terre. Nous rentrons dans cette matrice et de fait nous rencontrons les quatre éléments. Le feu, la terre, l'eau avec l'eau qui rentre et l'air avec la vapeur que ça fait. Nous sommes faits de terre, d'eau, d'air, de feu. Jusque-là nous pouvons le concevoir. Nous retrouvons la médecine ancienne, les quatre éléments, les quatre tempéraments, tout ce qu'on veut. Mais autre chose, c'est chamaniquement de le ressentir. Comme dit un chant mexicain, que je traduis en français, « La terre est mon corps, l'eau est mon sang, l'air est mon souffle, le feu est mon esprit. » Donc déjà, si j'arrive à me reconnecter aux quatre éléments basiques, ça me remet déjà davantage en place. Ensuite, une hutte à sudation, c'est comme un couteau suisse. On peut faire 10 000 choses avec. On peut faire des prières, on peut faire des guérisons, on peut faire une lutte à sudation pour le bien-être de la communauté, on peut en faire une pour la paix sur la terre, on peut en faire une pour les enfants, on peut en faire une pour les guerriers, on peut en faire pour beaucoup, beaucoup d'intentions différentes. Mais il est important d'avoir une intention. Qu'est-ce que je vais demander aux quatre éléments? Pourquoi est-ce que je vais solliciter la puissance du feu? Mais qui est le feu? Qui est la terre? Qui est l'air? Qui est l'eau? Et je le pose vraiment en qui c'est. Et nous avons tendance à dire c'est quoi? Non, c'est qui. Et nous sommes faits de ces présences, qu'on le veuille ou pas.
Et il y a aussi cette puissance de l'intention. Tu as utilisé ce mot, l'intention. Donc, quelle est l'intention? Elle va être mise par celui qui rentre dans la hutte, le participant, ou l'intention est de celui qui organise la cérémonie?
Il y a trois intentions. Il y a l'intention de celui qui va mener, parce qu'il arrive avec son style. Deux chamans ne mèneront pas les huttes de la même façon. Il y en a des plus toniques, il y en a des plus doux, il y en a qui chantent, il y en a qui c'est le tambour, il y en a qui sont beaucoup avec le lien avec les ancêtres. D'autres seront davantage en lien avec le grand esprit, d'autres seront en lien avec les animaux. Chaque conducteur de hutte à sudation va poser sa marque, donc son intention personnelle. Ça, c'en est une. Ensuite, il y a les intentions des participants. Chacun rentre dans une hutte parce qu'il a besoin de rencontrer ceci, cela, davantage de force, davantage de déposer un poids du passé. Bref, chacun arrive avec une intention différente. Et à l'intérieur des intentions individuelles, il y en a encore deux. Il y a celle que je peux nommer, je veux chercher ça. Et puis il y a celle qui est cachée, qu'on n'arrive pas à conscientiser, mais qui trouvera un moyen de sortir. Et la troisième intention du catalogue, c'est celle du groupe. Chaque groupe arrive avec une intention collective. Mais celle-là, on ne la sait pas. Et c'est, dans ce que j'ai pu en expérimenter, c'est celui qui va conduire la hutte qui, à un moment donné, va être suffisamment à l'écoute pour repérer l'intention de ce groupe, c'est quoi. Par exemple, tiens, ce groupe-là cherche la consolation de la terre, indépendamment des intentions individuelles. Tiens, cet autre groupe-là cherche la force du feu. Et donc, ça va colorer sa propre façon de conduire la hutte. Tiens, ce groupe-là cherche la légèreté de l'air pour mettre un peu d'espace dans des esprits, dans du mental trop saturé. C'est ce que j'appelle l'intention collective. Mais celle-là, les gens ne sont pas au courant au début, et le chaman encore moins. Donc elle se révèle au fur et à mesure.
Et je vais terminer sur cette notion de voyage chamanique. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique?
Eh bien, ce n'est pas des choses que je pratique beaucoup. Le voyage chamanique, dans ce qui est la plupart du temps reconnu comme étant cela, c'est un voyage au tambour. C'est-à-dire que le chaman ou celui qui va proposer ça, alors soit il lui propose un groupe, à ce moment-là il joue du tambour et ça fait un peu partir l'esprit des personnes qui l'écoutent sur un monde, en haut, milieu, en bas, vers le végétal, vers le monde des alliés, vers le monde des esprits. Il s'agit d'aller dans un monde invisible et où les personnes qui participent à ce voyage, des voyageurs, vont ramener une information, une vision, quelque chose. Bon, ça, c'est quand quelqu'un propose à un groupe un voyage chamanique. C'est quelque chose qui est très fréquemment proposé et très, très courant dans les choses que nous entendons dire. Après, le chaman lui-même peut faire ses propres voyages, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ses alliés, de ses ancêtres. Quand un chaman amazonien va faire un diagnostic, il va se servir du véhicule d'une plante, par exemple, qui va lui permettre de faire le voyage pour trouver qu'est-ce qui ne va pas, pour rencontrer ses alliés végétaux. C'est très rare qu'on fasse du voyage chamanique juste pour du tourisme. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose l'inscription à 14h30 pour un voyage, un petit tour d'exploration du monde végétal. Ce sera sympathique. Aujourd'hui, les conifères.
Avec ou sans crème solaire?
Sans, parce que sinon nous mettons un écran, ça veut dire que nous résistons aux messages qui nous seront donnés.
Il y a cette lecture que j'avais dû faire à une époque, hein. Dis-moi si c'est vrai ou pas. L'industrie de la pharmacie, pharmacopée, vont des fois en Amérique du Sud pour justement découvrir des associations végétales pour créer leurs propres médicaments. Et ils se retrouvent face à des peuples qui, eux, ont cette connaissance du végétal que nous, on n'a pas.
Oui, jusque-là, tout va bien. L'ennui, parce que c'est déjà arrivé et ça arrive de plus en plus, c'est que les grandes compagnies pharmaceutiques sont en train de breveter ces plantes et les molécules qui vont avec. Ce qui veut dire que c'est déjà arrivé, que des peuples d'Amazonie se trouvent légalement dans l'interdiction d'utiliser leur propre médecine sans payer des droits à la multinationale.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.